Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Studio Zef.
Nous sommes sur le 91.1 et le 91.7.
Nous sommes au hangar du Château d'Eau, c'est la soirée carrément.
Et c'est parti, c'est le direct de Studio Zef, les micros ouverts à la médiathèque Maurice Genevoix.
Le grand direct de Studio Zef.
Des plateaux hors les murs.
Pour vous faire entendre et vivre
les événements du Loir-et-Cher.
C'est quoi ta radio préférée ?
Bonjour à toutes Zefeux et Zefeurs.
A bientôt à la radio.
Nous sommes bien en direct de la médiathèque Maurice Genevoix sur Studio Zef dans le cadre des rendez-vous de l'histoire. Donc pour cette heure de rencontre et d'échange avec l'auteur Jacques Ferrandez, ici présent dans la médiathèque. Et donc je passe la parole tout de suite à Sophie Doudet qui va modérer cette table ronde. J'en profite pour rappeler que Jacques Ferrandez a été déjà présent cette semaine sur nos antennes. J'encourage ceux qui voudraient pousser, prolonger la rencontre que vous allez pouvoir entendre avec l'émission Mélodie Souterraine, où on a interrogé Jacques sur ses goûts musicaux et ses influences. Donc l'émission est à retrouver en podcast sur Studio Zef. Cette émission, cette rencontre sera également à retrouver très rapidement en podcast sur Studio Zef. Et place à la rencontre. Bonjour Sophie et bonjour Jacques.
Bonjour Jacques.
Bonjour Sophie.
Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus en ce début d'après-midi, de braver l'heure de la sieste pour rencontrer Jacques Ferrandez. Cette rencontre se fait en partenariat avec une revue, la revue de culture générale qui s'appelle L'éléphant et que vous trouverez précisément dans les rayonnages de la médiathèque Maurice Genevoix. Alors Jacques, bonjour. Je vais te présenter à notre public. Est-ce que vous connaissez Jacques Ferrandez ? Vous venez en fan club ou est-ce que vous voulez découvrir ? Un peu des deux.
J'en connais certains.
Ah, alors donc, je ne vais pas effectivement faire de grandes surprises pour ceux qui viennent et qui sont dans le fan club de Jacques, mais je vais quand même le présenter parce que nous avons des jeunes personnes dans le public qui peut-être ne le connaissent pas encore. Alors Jacques, tu es alors comment dit-on ? Est-ce qu'on dit un auteur de bande dessinée ? Est-ce qu'on dit un BDiste ? Comment dit-on ? Comment te présenterais-tu ?
Moi, je me présente comme un auteur ou dessinateur de bande dessinée, mais c'est vrai que je suis allé quelques fois au Québec, au Canada et à Montréal. Souvent, on emploie le terme de BDiste qui, parfois, a traversé l'océan jusqu'ici. Donc, voilà, c'est selon. Mais moi, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, j'étais simplement dessinateur, auteur de bande dessinée.
Voilà. Donc, BDiste arrive à Blois aujourd'hui en direct. Alors, tu es né à Alger, une ville dont on aura l'occasion de parler. Et de reparler, puisque tu la dessines beaucoup, et tu dessines beaucoup l'Orient, on y reviendra. Tu as commencé à faire de la bande dessinée avec une dimension quand même, dès le départ, historique, notamment dans un certain nombre de revues. Celle qui est peut-être la plus célèbre, c'est la revue À Suivre, qui il y a quelques années proposait des bandes dessinées parfois en feuilleton, notamment à dimension historique. Tu as travaillé aussi auprès de Métal Hurlant, de Pilote. Et tu as une œuvre qui est très diversifiée. Alors pour la présenter à notre jeune public, il y a d'une part une énorme série, une série très conséquente, qui s'appelle Carnet d'Orient et qui sera suivie 12 ans après de Carnet d'Algérie. Alors Carnet d'Orient, ça commence au moment de la conquête de l'Algérie, donc le début de la colonisation, et ça nous amène au début de la guerre d'Algérie. Donc c'est toute une série de bandes dessinées qui sont des petits tomes que vous avez d'ailleurs sur le présentoir qui est au fond, juste derrière vous, sur le présentoir gris. Donc c'est plusieurs tomes qui ont été regroupés sous un seul recueil plutôt récemment et qui racontent l'histoire de plusieurs personnages et notamment de quelqu'un qui est un peu comme toi, qui est un artiste et qui est un dessinateur. Et puis ensuite, ça a été suivi 12 ans après, si on suit la logique, ça suit la guerre. Donc à partir de 1954, c'est le début de la guerre d'Algérie. Et ça nous amène dans un premier temps jusqu'en 1962, qui est le moment de l'indépendance. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Sur le moment où on pense que tu vas t'arrêter là, et puis peut-être des voyages en Algérie, des demandes, des sollicitations de lecteurs vont aboutir à une deuxième série qui est en seulement deux albums, qui s'appelle Suite algérienne et qui nous amène jusqu'en 2019, c'est-à-dire au moment du Hirak, qui est l'équivalent en Algérie de ce qu'on a appelé les printemps arabes, et qui en a d'ailleurs au passage peut-être qui s'est achevé de la même façon. Alors, premier type de série, ce parcours qui est le parcours à la fois de l'histoire et de l'intime, puisqu'on suit transmis les personnages de génération en génération. Et puis, tu t'es illustré dans bien d'autres domaines. Tu as fait aussi des carnets de voyage absolument magnifiques qu'on lit en mode paysage à Alger, en Irak, à Istanbul. Ça, c'est une de tes cordes à ton arc. D'autre part, on a aussi des adaptations, puisque tu as travaillé à partir d'ouvrages qui sont des ouvrages de Jean Giono, mais aussi de séries noires, et principalement l'Albert Camus, donc l'hôte, le premier homme, et l'étranger. Pour finir, tu es aussi musicien de jazz. Qu'est-ce que tu joues comme instrument ?
Moi, je joue de la contrebasse, ce qui est probablement l'instrument le moins facile à transporter, mais c'est mon instrument, donc je pratique essentiellement la musique de jazz, oui.
Oui.
Cela dit, quand on joue du jazz, on peut tout jouer, hein, vous savez.
Oui, et normalement, on est censé pouvoir improviser ce que tu es en train de faire royalement. Donc, vous avez au fond de la médiathèque toute une série donc, de livres qui ont été illustrés par Jacques Ferrandez et qui concernent la musique. Et au volet audio, vous pourrez écouter ces disques puisque ce sont des livres et des disques audio. Alors, rentrons dans le vif du sujet.
Oui.
Enfin, je vais donc me taire. Quand est-ce que tu as décidé que tu allais faire de la bande dessinée ? Est-ce que tu as hésité ? On a deux jeunes filles dans le public. Comment devient-on auteur de bande dessinée ?
Je crois qu'au départ, il faut avoir une envie, c'est-à-dire une pratique du dessin incessante depuis l'enfance. En fait, moi, c'était mon cas. Je dessinais tout le temps. Et puis, je lisais des bandes dessinées. Moi, j'ai été élevé avec les grands classiques, hein, que ce soit Hergé, évidemment, Tintin. Un peu plus tard, bon, il y avait beaucoup de revues. Tout à l'heure, on a évoqué les revues dans lesquelles j'ai débuté. C'est une époque, quand j'ai commencé, bon, maintenant, ça fait une quarantaine d'années, donc c'est loin, mais la bande dessinée était essentiellement véhiculée par des revues, c'est-à-dire chaque éditeur avait son magazine qui permettait de passer en feuilleton les histoires, les récits, avant d'être repris en album. Et d'ailleurs, pas systématiquement. Beaucoup de publications dans les revues n'aboutissaient pas nécessairement à un album. Et en fait, lisant ces bandes dessinées, quand j'étais petit, c'était Spirou, Tintin, c'était un peu plus tard Pilote, et puis ensuite des grands auteurs comme Hugo Pratt ou Tardi. C'est des gens qui m'ont beaucoup influencé. Et bon, dans mon idée, moi, je voulais faire de la bande dessinée quand je serais grand, quoi, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard. Et finalement, j'ai des parents qui ne se sont absolument pas opposés à cette vocation, parce qu'ils voyaient que c'était très, très chevillé au corps. Et j'ai fait donc comme ça un bac art plastique, avec option art plastique. Et dès que j'ai eu le bac, je suis rentré dans une école de beaux-arts à Nice, la Villa Arson, où j'ai suivi un cursus qui était assez long, qui quand même représentait 5 ans d'études. Mais justement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que pendant mes études, j'ai fait des rencontres dans le milieu de la bande dessinée en proposant déjà des choses. Et ça a tout de suite fonctionné avec un scénariste qui s'appelait Rodolphe, qui est toujours en exercice et qui m'a proposé ma première vraiment grande histoire. Donc là, on est en 77-78. Vous voyez, ça remonte assez loin. Et finalement, il n'y a pas eu d'accro. C'est-à-dire que dès le départ, j'ai eu la possibilité de publier mes premières histoires, d'abord avec un scénariste, puis ensuite des histoires tout seul, donc dans ces revues pour commencer. Et puis les choses se sont enchaînées. J'étais encore étudiant, donc c'était pour moi une espèce d'ouverture incroyable de pouvoir déjà publier des premières choses alors que j'avais ni diplôme ni rien du tout. Cela dit, c'est une profession, on ne vous demandera jamais un diplôme pour être publié, c'est-à-dire ce que regardent les éditeurs, c'est votre dossier, ce que vous avez à proposer, votre projet. Et si possible, déjà une réalisation, un début de réalisation. Donc, ça fait donc maintenant, je vous dis, si on remonte à 77, ça va faire, vous voyez, bientôt 50 ans que je pratique ce moyen d'expression.
Encore aujourd'hui, quand tu as un projet, tu envoies des morceaux, tu envoies un synopsis. Comment, en fait, on fabrique une bande dessinée ?
Oui, alors, de façon pratique, moi, j'ai la chance, et depuis le début, d'avoir toujours réalisé des bandes dessinées qui étaient mes propres projets. Il y a très peu d'exemples, peut-être un peu au début, quand j'ai débuté, je travaillais aussi pour la presse jeunesse, hein, la Bayard Presse, notamment, où là c'était un peu des commandes, puisqu'on me proposait d'illustrer un texte ou de mettre en bande dessinée un extrait d'un classique. Vous voyez, j'ai travaillé sur Madame Bovary, des choses comme ça. C'est souvent des incitations à la lecture, hein, pour le public. C'était un public adolescent, généralement, à qui on proposait justement une manière d'approcher un récit ou un auteur par l'illustration ou par la bande dessinée. Mais en dehors de ça, tous les albums que j'ai publiés l'ont été sur des projets personnels. Alors, il s'agit parfois, évidemment, d'envie personnelle pour raconter telle ou telle histoire, ou parfois des rencontres aussi avec un auteur avec qui on a envie de travailler ensemble, ou parfois la rencontre avec une œuvre aussi qu'on a envie d'adapter pour la mettre pour se mettre au service de cette œuvre sous cette forme-là, sous cette forme de bande dessinée. Mais en effet, une fois que on a un projet en tête, alors aujourd'hui c'est plus facile pour moi parce que je suis un peu connu, y compris dans le monde de l'édition et dans l'univers des éditeurs. Mais l'idée, c'est ça, c'est que d'abord on soumet un projet et puis on travaille avec l'éditeur à ce moment-là qui va vouloir en savoir plus. Donc on fournit un synopsis, c'est-à-dire une espèce de résumé de ce que sera le sujet, le projet. Et puis après ça, évidemment, on commence à fournir les premières pages. Mais maintenant, je peux dire, mais même depuis le début, je travaille entièrement en confiance avec les éditeurs, puisque j'ai un long parcours et que j'ai une espèce d'existence dans ce milieu avec des relations parfois assez longues. Hein. Souvent, les éditeurs avec qui je travaille aujourd'hui, je les connais parfois depuis 15, 20, 20 ans ou davantage. Donc on est quand même toujours sur un principe de travail en confiance et en relation étroite avec ce qu'est le projet et ce que sera le livre à l'arrivée.
Alors j'imagine que tu as un fil, un scénario, un synopsis. Après, bon, tu as une double page. Là, sous les yeux, on a une double page sans texte, sans filataire. Oui. Alors, est-ce que le texte arrive après ou avant? Comment tu répartis, par exemple, sur cette double page, comment tu répartis la trame, le dessin? Les couleurs
est, oui, alors évidemment. Alors là, on est sur une double page qui est un extrait de l'adaptation de L'Hôte, donc, qui est le premier travail que j'ai fait sur les adaptations littéraires autour de l'œuvre de Camus. Et c'est un exercice, là, alors toujours un peu difficile, enfin, c'est toujours difficile ou compliqué parce que quand on se saisit d'un livre, surtout quand c'est un classique comme L'Étranger, il y a déjà le livre qui existe. Qu'est-ce qu'on va garder du livre, sachant qu'on ne peut pas faire une adaptation littérale qui ferait, si on adaptait page par page, la bande dessinée ferait 300 ou 400 ou 500 pages à l'arrivée. Donc on se tient à des standards, disons, même si les standards ont beaucoup évolué. Tout à l'heure, on parlait des intégrales des Carnets d'Orient. Les premiers albums, on était sur des standards à peu près de 60 pages, 80 pages. Et aujourd'hui, les derniers albums que j'ai faits sont plutôt sur des standards de 120, 140 pages. Vous voyez, donc là aussi, les usages et les modes de lecture du public ont changé. Souvent, on me demande si je fais du roman graphique. Alors, on se demandait, auteur de bande dessinée, BDiste. Le roman graphique, c'est un terme qui est arrivé assez récemment dans l'édition. Ça vient sans doute des graphic novels américains. C'est souvent des grosses paginations. C'est souvent des histoires parfois autobiographiques, enfin qui touchent des sujets de société ou des choses. Mais en réalité, ça reste du récit dessiné. Je me souviens quand j'ai commencé avec la revue À Suivre, des éditions Casterman, le premier éditorial de la revue, c'était, et ça remonte à 78, c'était aujourd'hui le roman s'écrit aussi en bande dessinée. Parce qu'à l'époque, c'était Pratt, c'était Tardy, des gens comme ça. Donc c'est une vieille histoire de pouvoir raconter à travers ce mode d'expression qui mêle le texte et le dessin. Après, c'est les standards qui changent, ce sont les paginations qui peuvent évoluer aussi. Voilà, mais là, on avait sous les yeux un exemple. Et effectivement, c'est une scène muette, c'est-à-dire qu'il a fallu restituer ce qu'est dans la nouvelle, c'est-à-dire un personnage qui vit seul dans une solitude choisie, dans un grand paysage que celui des hauts plateaux algériens. Il est instituteur, il vit dans son école dans laquelle il accueille évidemment des enfants du douar local. Il n'y a pas un seul Européen dans la région, il est le seul avec le gendarme qu'on verra plus tard dans le récit. Donc pour rendre compte de la solitude, de l'isolement du personnage, on peut le faire si on reprend les termes mêmes de la nouvelle d'Albert Camus, c'est-à-dire de reprendre le récitatif et le descriptif qui est fait dans le roman. Mais moi, je fais confiance à l'image dans mon mode d'expression et je considère qu'on peut aussi décrire par l'image une forme justement de scène qui sera muette, et c'est aussi au lecteur de s'emparer de ce qu'on lui met sous les yeux pour y mettre sa propre interprétation. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir évoquer à travers l'image ce qui est entre les cases. Voyez, c'est-à-dire quand on fait une narration en bande dessinée, on fait une succession de cases qui définissent une séquence, et les images absentes, c'est-à-dire c'est ce petit filet blanc entre les deux cases, c'est ça aussi qui donne l'imagination au lecteur, une manière de pouvoir développer aussi sa propre créativité en tant que lecteur. Vous voyez, ça c'est aussi important de le dire en bande dessinée, c'est que on n'a pas le son, on n'a pas le mouvement par rapport au cinéma, on n'a pas la musique, on n'a pas le dialogue parlé par les acteurs. Donc avec les moyens qu'on a, il faut aussi qu'on essaye de transmettre quelque chose au lecteur, et ça passe évidemment essentiellement par l'aspect visuel.
Et souvent, dans ces doubles pages, il y a un dessin de fond. Souvent, c'est des paysages. Tu as choisi le moyen de l'aquarelle. C'est bien de l'aquarelle ?
C'est de l'aquarelle. En fait, moi, je travaille, vous savez, à l'ancienne. Hein. Aujourd'hui, les jeunes me demandent, mais alors, tu travailles sur ordinateur, comme si l'ordinateur était capable de tout faire. Alors, ça viendra peut-être avec l'intelligence artificielle. On en reparlera peut-être. Mais moi, je travaille toujours parce que j'aime ça aussi, parce que ça vient aussi de cette pratique que j'ai depuis l'enfance. C'est le papier, le crayon, les aquarelles, les couleurs, la gouache, etc. Et c'est comme ça, moi, que je continue à travailler, même si en phase finale, aujourd'hui, il y a des petites corrections ou des rajouts qui peuvent se faire en numérique.
En numérique.
Parce qu'on fournit des fichiers numériques à l'éditeur, et c'est en numérique que je réintègre les bulles et les textes. Mais les textes sont écrits de ma main aussi, mais je les isole au moment de faire ma mise en couleur pour avoir mes fonds, et puis je les réintègre en numérique. Mais ça, c'est un peu de la cuisine interne, chacun a la sienne.
Sa technique.
Mais oui, j'utilise en fait le numérique comme un outil, mais pas comme une fin en soi.
Et les textes, tu les as à l'avance ou tu les modifies au regard du dessin ?
Alors ça, c'est le grand privilège que j'ai étant le seul maître à bord en tant que scénariste et dessinateur, c'est que même si j'ai un scénario qui peut être écrit à l'avance et relativement construit et détaillé, il peut arriver en cours d'histoire à cause justement de la manière dont le dessin se met en place sur la page, que ça puisse modifier des éléments de dialogue parfois, ou quelque chose qui va venir justement parce qu'il se passe quelque chose au niveau de l'image et qui va induire peut-être un élément de dialogue auquel je n'avais pas pensé. Donc ça, c'est cette grande liberté que j'ai de pouvoir presque improviser aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, je travaille de façon beaucoup plus rigoureuse sur le scénario. D'abord, quand il s'agit d'adaptation, quand c'est L'étranger de Camus, je ne peux pas me permettre de faire dire n'importe quoi au personnage. Donc là, le dialogue est très inspiré du travail, du roman original. Mais précédemment, dans toute ma série des Carnets d'Orient, j'ai laissé une grande part à l'improvisation. Parfois, je commençais un album sans savoir comment il allait se terminer, parce que je me laissais aussi porter par les personnages, par les situations, l'action, etc. Et de voir à un moment donné que les personnages pouvaient se trouver à un carrefour de leur vie, qu'est-ce qu'on choisit. Et c'est pareil dans la vie de chacun. À un moment donné, on fait des choix. Et parfois, ce n'est pas ceux auxquels on aurait pensé, parce que les circonstances, disons l'environnement, la situation fait qu'on va se retrouver à devoir opter pour un acte ou une parole qui aura des conséquences. Vous voyez, donc ça aussi, c'est des choses que j'aime bien, parce que c'est ça aussi qui fait qu'on est très très libre avec la bande dessinée. Quand j'imagine ce que coûteraient ces récits si on devait les adapter au cinéma, vous voyez, avec des budgets, avec des décors, avec des acteurs, des figurants, des productions, des financements, etc. En bande dessinée, j'ai un interlocuteur, c'est mon éditeur. On s'entend simplement sur la nature du sujet, les délais aussi, pour dire on ne va pas le faire dans 10 ans. On le fait, si on le démarre maintenant, on sait qu'on va pouvoir le sortir dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Enfin. Et puis à partir de là, on est vraiment, vraiment tout à fait libre de s'exprimer, parce qu'on est dans une forme d'économie très, très rudimentaire. Hein. C'est-à-dire, oui, ça coûte à l'éditeur de faire un livre, Mais si je rajoute 1000 figurants sur une page, ça ne coûtera pas plus cher, vous voyez.
C'est vrai. Tu vis avec tes personnages. Tu avais l'air de dire qu'ils pouvaient t'imposer une partie de l'histoire, un peu comme par hasard. Est-ce que tu dirais que tu vis avec ton personnage principal, oui, avec l'Ascaris, puisque c'est ton dernier héros? Est-ce qu'ils sont autour de toi? Est-ce que tu penses à eux? Comment,
oui, oui, tout le temps.
Comment on donne corps à un personnage?
C'est évident, parce que moi, souvent, c'est ce que je dis, c'est qu'un album, c'est un an de ma vie. Alors, l'autre, qui était une pagination plus faible, autour de 60 pages, dont on a vu quelques images, c'était peut-être un petit peu moins, parce que je le portais depuis longtemps, ce récit. J'avais vraiment depuis longtemps envie de m'attaquer à l'œuvre d'Albert Camus, par cette nouvelle-là en particulier. Donc je crois que cet album, j'ai dû le faire en 6-7 mois. Mais le dernier album, Orient perdu, qui a nécessité beaucoup de recherches documentaires, iconographiques, y compris recherches historiques, c'est un album qui m'a pris, qui fait aussi 120 ou 130 pages, qui m'a pris pratiquement 2 ans, même un peu plus. Donc c'est forcé que pendant tout le temps de la réalisation, c'est quand même très mobilisant. C'est tous les jours à sa table, pratiquer le dessin, la couleur, le scénario. C'est forcé qu'on soit en relation étroite avec ces personnages. Et quand j'ai travaillé, par exemple, sur le premier homme, le roman posthume d'Albert Camus, eh bien, j'étais toute la journée et jour et nuit, j'allais dire, imprégné par l'œuvre de Camus, par la vie de Camus, parce que le premier homme est une forme d'autobiographie. Donc forcément, on est dans le bain, quoi, et donc on vit aussi on vit au rythme de ces personnages.
Il te ressemble beaucoup, le monsieur sur la couverture. Alors, c'est pas toi, mais quand même, il y a des petits airs de ressemblance quand même. Alors, est-ce que tu mets évidemment de toi? Est-ce que dans Suite Algérienne, il y a un peu plus que de toi, créateur, mais peut-être biographique?
Alors, sur la couverture de Suite Algérienne, là, c'est volontaire, c'est-à-dire c'est un personnage qui me ressemble dans la mesure où le début de l'histoire se passe en 2019 à Alger. Et j'étais en 2019 à Alger au moment du Hirak, et précisément au point culminant qui était le 1er novembre 2019, qui était le 37e vendredi. Vous savez, le Hirak, c'est cette année de manifestation tous les vendredis où tous les Algériens sont descendus dans la rue. Il y avait des millions de personnes pour faire dégager le régime de Bouteflika qui était censé se représenter pour un 5e mandat alors qu'il était moribond. On ne le voyait même plus depuis plusieurs mois. Il était devenu totalement invisible parce qu'il était très, très malade. Donc c'était une mascarade, en fait, que les Algériens ont voulu dénoncer en descendant dans les rues de façon extrêmement pacifique. D'ailleurs, je tiens à le signaler, c'est qu'il n'y a pas eu de violence de la part de la population. Il n'y a pas eu de violence non plus de la part des forces de l'ordre qui ont laissé faire, parce que tout simplement, le fait de dégager Bouteflika, ça a permis à un autre clan de se mettre au pouvoir à sa place. Et depuis que ce clan est au pouvoir, avec le président actuel, le régime s'est énormément durci, notamment par rapport à tous ceux qui descendaient dans la rue jusque-là. Les journalistes, les militants des droits de l'homme sont aujourd'hui en prison. Notamment, je pense aussi à mon ami l'écrivain Boualem Sansal, qui se trouve aujourd'hui en prison. Et pour simplement la raison toute simple qu'il s'exprimait contre le régime de son pays et contre aussi la montée, disons, du religieux très, très intégriste. Enfin, et il savait de quoi il parlait parce qu'il a vécu quand même cette guerre civile pendant une dizaine d'années, dans les années 90. Donc c'est pour dire le fait que j'étais, moi, très investi aussi dans cette histoire. J'ai travaillé sur toute la période coloniale, conquête, colonisation, guerre d'Algérie. Et j'allais pas, finalement... Je ne pouvais pas laisser mes personnages... L'histoire ne s'arrête pas en 1962, donc j'avais envie de raconter ce qu'a été aussi l'Algérie depuis 1962. Et en effet, me retrouvant à Alger dans un certain type de situation, ça m'a donné l'idée du début de cette histoire-là. Et au début, d'ailleurs, j'avais fait ce personnage qui me ressemble, ce que je ne fais jamais dans mes bandes dessinées, en disant à mon éditeur, je vais sans doute le modifier, je vais sans doute lui donner un autre visage parce que c'est trop proche de moi. Et mon éditeur m'a dit, non, laisse-le comme ça, parce que c'est la première fois sur cette série que tu peux utiliser ton vécu, ton ressenti et ton expérience, vraiment des choses vues, choses entendues, directement sur place, quoi, à Alger. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé et qu'on peut effectivement me reconnaître sur la couverture. Mais à part ça, on m'a souvent dit que tous mes personnages, le premier personnage, Joseph Constant, dans dans les premiers carnets d'Orient. On m'a dit ça même sur le Lascaris qui vient de sortir.
Oui, alors,
on me dit, mais oui, mais c'est toi. On me dit, c'est toi. Ben, je dis, ben oui, mais ça leur peut-être, mais je ne l'ai pas fait exprès. Parce que finalement, ça, c'est une chose dont on ne se rend peut-être pas compte, qui est assez inconsciente. Ce phénomène, moi, m'a été expliqué, je peux dire, mais en trois mots, et par quelqu'un qui n'avait absolument aucun sens du dessin, aucune culture du dessin. C'était dans un de mes voyages en Syrie. J'avais fait beaucoup de dessins sur place, beaucoup de portraits comme ça dans la rue, des petits métiers, des serveurs, des gens qui vendent du café, etc. Et j'avais tenu, quand l'exposition a eu lieu pour présenter mes dessins à Damas, au Centre culturel français, j'avais tenu à ce que les gens que j'avais croqués comme ça dans la rue puissent être présents pour le vernissage. Donc les gens de l'Institut français ont vu déferler une population qu'ils ne voyaient jamais, puisque c'était normalement les officiels, la grande bourgeoisie, etc. Et là, ils voient arriver tout un tas de gens qui étaient vraiment le peuple syrien. Et quelqu'un, justement, qui était un serveur de café, voit le dessin que j'avais fait de lui. Il comprenait pas, parce que la pratique du dessin est absolument absente dans le monde musulman, notamment dans des pays comme la Syrie, qui à l'époque était assez isolée, et il n'y a aucune formation sur le dessin tel qu'on le pratique ici, c'est-à-dire le modèle vivant et tout ça. Donc il regarde le dessin, il se demande si c'est une photo, si c'est un dessin. Donc j'avais un interprète qui pouvait traduire le dialogue. Et puis il regarde bien le dessin, et puis il me regarde et il dit, en fait, oui, c'est moi, et la part qui n'est pas moi, c'est toi. Et je trouvais ça absolument éblouissant que quelqu'un ait pu, en deux mots, définir exactement ce que c'est que le travail, finalement, de l'artiste qui s'investit dans son travail et qui se représente, mais de façon inconsciente, à travers son art, enfin à travers sa pratique. Et voilà, alors c'est comme ça que je réponds généralement quand on me dit, oui, mais c'est toi, tu t'es fait un autoportrait. Non, mais c'est pas nécessairement volontaire.
C'était les deux parts qui se réunissaient. Alors sur chacune des couvertures, on reconnaît l'Orient. C'est une des grandes thématiques transversales de la plupart de tes œuvres. Pas exclusivement, hein, mais c'est récurrent, c'est même récurrent dans les titres. Hein. Carnet d'Orient, Orient perdu. Mmh. Est-ce que tu te qualifierais, même si évidemment on n'est pas dans le même siècle, est-ce que tu es un orientaliste, hein? Est-ce que ton Orient est rêvé, fantasmé? Est-ce qu'il est perdu? Comment expliquer ce dernier titre, de mélancolie peut-être?
Alors, Orient perdu, oui, c'est vraiment le titre du dernier album, parce que là, il s'agit d'une histoire qui se passe bien, bien plus loin de nous. C'est-à-dire là, on est entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, au moment de la campagne d'Égypte de Bonaparte. Donc, cette armée d'Orient, hein, puisque c'était son nom, qui va conquérir l'Égypte, mais avec aussi une cohorte de scientifiques, de savants et d'artistes, pour rendre compte ensuite, et ça a été le début de l'égyptologie et de l'orientalisme, si on veut, c'est pour rendre compte aussi de la description de l'Égypte. Et moi, je me suis toujours, baladé autour de cette terminologie. Alors, je ne me prétends pas du tout orientaliste, mais j'ai étudié, j'ai regardé ce qu'a été ce mouvement, ce grand mouvement au XIXe siècle, chez les écrivains, chez les peintres, et dans l'imaginaire collectif, hein, de ce que pouvait représenter l'Orient, avec déjà une forme de malentendu sur le mot. Parce que l'Orient, pour nous, à l'époque, il y avait cette dimension très large qui allait du Maroc à la Chine, hein, en passant par le Proche-Orient, la Perse, etc. Mais en fait, l'Orient tel qu'il a été rêvé quand les gens allaient en Algérie, par exemple, pour le monde arabe, c'est l'Occident. Le Maghreb, c'est ce que ça veut dire. C'est le soleil, c'est le couchant. Donc c'est l'Occident. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une espèce d'ambiguïté sur le choix des termes et sur l'imaginaire qui allait avec ça, puisque tout le mouvement orientaliste, et on le sait aujourd'hui, enfin tout ça a été décrit aujourd'hui et peut-être de façon excessive dans les études post-coloniales sur le regard, l'invention de l'Orient par les Occidentaux. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Il y a d'abord parfois un vrai attrait pour ces cultures et ces civilisations. Et beaucoup d'orientalistes étaient, y compris alors, dans les les historiens, les sociologues, les anthropologues à l'époque étaient des véritables passeurs aussi pour rendre compte de ce que c'était cette culture, cette civilisation. Il y avait aussi un rêve au XIXe siècle avec les Saint-Simoniens qui était de faire ce, et qu'on voit déjà chez Bonaparte, hein, faire cette espèce de rapprochement ou même de fusion entre l'Occident et l'Orient. Alors tout ça, effectivement, était peut-être parti sur de mauvaises bases, hein, puisque souvent c'était c'était dans la une procédure de conquête, et d'annexion parfois aussi, voire de négation aussi des peuples sur place. Mais c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de questionner cette notion. Et je vois, j'ai eu l'occasion aussi d'aller assez récemment dans les pays du Golfe, hein, que ce soit au Qatar ou dans les Émirats, et il y a une réappropriation. On voit ça dans les musées, il y a le Louvre à Abu Dhabi, il y a le musée au Qatar aussi, parce qu'ils ont aussi d'énormes moyens financiers, récupèrent dans les ventes publiques, que ce soit Christie's, Sotheby's, les tableaux orientalistes, parfois des très grands noms, Fromentin, Delacroix, Géricault, et souvent les réintègrent dans leur collection comme si c'était le témoignage de ce qu'était la vie dans ces pays à l'époque des arrière-grands-parents, vous voyez, des ancêtres de ceux qui aujourd'hui ont les moyens d'acheter ces tableaux. Donc ça m'a beaucoup frappé de voir cette forme de réappropriation qui va à l'encontre de ce qu'on peut dire ici en Occident sur cette forme de dévoiement de l'imagerie qu'on a pu donner de l'Orient à l'époque. Vous voyez, des allers-retours en permanence, et c'est ça aussi qui est intéressant.
Si tu avais à définir l'Orient de tes bandes dessinées, même si évidemment ça prend deux siècles, hein, si on part de 1830. Avec Lascaris, tu vas même de façon antérieure, puisque ça commence à la Révolution française. S'il y avait des grandes lignes, quand tu commences un paysage oriental, qu'est-ce que tu mets ?
Ouais, je ne travaille pas... Oui,
tu travailles à partir d'images, oui, alors, de documents ?
Ça, évidemment, ça, c'est absolument nécessaire. Quand on travaille sur un matériau historique, il faut qu'au minimum... Et c'est l'avantage aussi qu'on a par rapport aux cinéastes, c'est que nous, on peut faire exactement ce qu'on veut. On peut reconstituer. Moi, j'ai dessiné des dizaines ou des centaines de fois la ville d'Alger, depuis le début de la conquête en 1830 jusqu'aux périodes les plus récentes. C'est une ville qui a énormément évolué dans son architecture, dans sa géographie physique, quoi. Et ça, on peut le faire parce qu'on peut se référer à des documents et les restituer vraiment tels que ces lieux sont à l'époque qu'on a envie de représenter. Ce qui est impossible au cinéma, parce qu'on va faire de l'à peu près, on va faire du décor, tous les films aujourd'hui qui sont censés se passer en Algérie sont tournés au Maroc. Hein. Prochainement, il y a L'étranger, l'adaptation de François Ozon, il a dû tout tourner au Maroc. Donc, j'ai vu dans la bande-annonce les bains où Meursault va...
Les bains Padovani.
Les bains Padovani les bains de l'Amirauté, hein, oui, sur le port d'Alger. Bah, ils ont reconstitué ça avec une espèce de petit portique qui est marqué « bains d'Alger » et puis c'est une petite crique comme ça. Donc moi, je me suis autorisé à reproduire exactement ce qu'étaient ces bains sur le môle là, du port d'Alger. Vous voyez, donc ça, c'est un avantage qu'on peut avoir, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se replonger dans cette documentation qui va faire vivre aussi une époque, des personnages dans des situations et dans des décors particuliers. Donc, dire comme ça, oui, je vais dessiner un paysage oriental, d'abord, ça n'a pas tellement de sens, parce que c'est quand même... Avant tout, c'est quand même cette Méditerranée. C'est-à-dire, moi, j'habite dans la région de Nice.
C'est pour ça que je regardais le dernier, la descente vers Nice, c'est la même mer.
Il y a des permanences sur la végétation, sur la lumière, sur le paysage, même sur les constructions. Je vois, il y a certains villages de l'arrière-pays à Nice, avec des rues, avec des encorbellements, des passages voûtés, etc. On peut se croire parfois à la Casbah d'Alger, vous voyez, donc ou dans les médinas de Tunis ou de Fès, il y a des choses extrêmement similaires dans cette géographie, dans cette architecture. Donc oui, moi je mets toujours finalement le dessin au service du récit, et en effet plus j'ai les éléments sur lesquels je peux m'appuyer, mieux ça vaut par rapport au résultat final.
Alors, ces dessins et ces images, elles sont majoritairement poétiques. elle porte à la rêverie et en même temps, les sujets que tu abordes sont pour la guerre d'Algérie, enfin pour la colonisation et pour la guerre d'Algérie jusqu'à nos jours, sont profondément marqués par la violence. On peut passer par exemple à la décennie noire dans les années 90. Dans la sélection qui est proposée là et qui est sous le regard du public, on a plutôt des images qui sont des images soit d'histoire, soit des images de paysages, de rêverie. Comment on dessine, on peint la violence, le meurtre, le viol? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est le même travail? Est-ce que tu te poses des questions? Enfin, comment on montre et on ne montre pas?
Oui, c'est la question de la représentation de la violence. Moi, je suis plutôt... quelqu'un qui se méfie parce que je veux pas qu'il y ait de complaisance avec tout ça. Donc, et puis là, on a beaucoup de techniques. Hein. Il y a le hors-champ, comme on fait au cinéma aussi. C'est-à-dire qu'on peut imaginer ce qui se passe sans être obligé de le montrer par la manière dont peuvent réagir les personnes qui sont impliquées dans ces actes de violence, que ce soit du côté du bourreau ou du côté de la victime. J'ai une manière de faire, effectivement, qui euphémise un petit peu pour ne pas faire de la violence gratuite et faire du spectacle avec ça. Mais évidemment, je ne peux pas l'occulter, parce que dans une histoire qui est une histoire violente de conquête, de colonisation, de répression, enfin, il y a tout un tas d'épisodes, et finalement, qui sont violents en tant que tels. Dans le dernier album, là, Les Orients perdus, c'est la conquête, la campagne d'Égypte. On voit, et ça m'a d'ailleurs, ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur cette période, parce qu'on est en exactement 30 ans, 1798-1800, le corps expéditionnaire quitte l'Égypte en 1801. Bon, Bonaparte, lui, sera parti un peu plus rapidement, il quitte l'Égypte au bout d'un an, en 1999. Mais 30 ans plus tard, c'est la conquête d'Alger. Et c'est les mêmes ingrédients, c'est-à-dire qu'il y a une conquête militaire, il y a la supériorité d'une armée moderne sur les populations indigènes, on peut dire. Et donc, il y a forcément de la violence. Et ça, il s'agit de le montrer. Oui, alors là, je crois
tu
qu'on est sur,
la
bataille d'Aboukir.
Il y en a pas mal qui meurent.
On a appris
meurent.
Ça quand on était allé. Oui, forcément, la guerre, ça fait des morts. Hein.
Ça fait des morts.
la bataille d'Aboukir, on a appris ça à l'école. C'est le désastre naval. La flotte de l'expédition de Bonaparte a été détruite par la flotte britannique de Nelson, déjà, qui a réussi à attaquer et à couler en fait la flotte française. Mais évidemment, là on est dans une guerre, c'est-à-dire que les personnages sont confrontés à cette situation. Et là, il y a aussi une grande double page avec la bataille des pyramides, où Bonaparte dit « Mais oui, mais ces Mamelouks, ils sont courageux, mais ils se battent comme au temps des croisades, et nous, on a l'artillerie, on a les tactiques militaires du carré, etc., qui permettent évidemment d'avoir une supériorité militaire. Ça, ce sont des épisodes historiques. Après ça, on n'est pas obligé non plus de montrer des bains de sang, même si, encore une fois, cette histoire était très violente. Il y a un épisode un peu plus tardif dans la campagne d'Égypte, qui est on a vu ça dans les tableaux classiques, la peinture classique, la peste à Jaffa. Oui. À un moment donné, le corps expéditionnaire se retrouve à Jaffa, et là, il y a une épidémie de peste. Et Bonaparte ne peut pas, d'abord, ni soigner ni rapatrier ses soldats, donc il les abandonne en les faisant empoisonner pour pas qu'ils tombent aux mains, vous voyez, des Mamelouks, en sachant qu'ils vont sans doute passer un sale quart d'heure. Bonaparte ne fait pas de prisonniers, parce qu'il considère que mettre à disposition une garnison pour garder justement les prisonniers, ça va manquer, disons, à l'armée, et ça va lui enlever des combattants si on les met comme gardiens de prisonniers. Vous voyez, donc il y a des choses qui sont terribles à cette époque-là, que l'histoire a pu parfois enjoliver, mais quand on est au contact de l'histoire, et bien effectivement, il y a des morts, quoi. Bon, et alors j'essaye, moi, comment dire, de jouer aussi avec l'imagerie qui a été celle de la, tous les grands tableaux de Horace Vernet,
oui,
de David, enfin sur les campagnes napoléoniennes, Jean-Léon Gérôme, il y a beaucoup de Gérôme sur l'expédition d'Égypte. Alors c'est des très très beaux tableaux et souvent c'est même assez spectaculaire quand il s'agit de batailles. On voit bien. C'était aussi une manière à l'époque de faire une forme de propagande aussi pour le pouvoir en place, c'est-à-dire montrer la supériorité de nos armées quand il y a eu toutes ces victoires. D'abord Bonaparte, hein, vous savez, on avait ça dans les manuels d'histoire, époque Bonaparte au pont d'Arcole pendant la campagne de 1796 en Italie, une espèce d'héroïsation aussi sur un cheval blanc.
Sur un cheval cabré.
Donc tout ça, moi je joue avec ça, c'est-à-dire à la fois pour le parfois le détourner, le représenter, mais avec le recul qu'on peut avoir aussi aujourd'hui.
Il y a des motifs un peu nouveaux ou que tu n'avais pas repris depuis longtemps, notamment les grandes batailles, les peintures de grandes batailles et des batailles marines, des bateaux. Il y a beaucoup de bateaux chez Lascaris. J'ai un peu pensé à Bourgeon, je dois dire.
Ouais, mais là aussi, c'est nécessité.
C'est nouveau. Ouais, alors, c'est nécessité, mais oui, est-ce que c'est intéressant, c'est amusant,
c'est amusant, c'est difficile. Parfois fastidieux, oui. Parce que bon, le personnage part de Nice. Là, on
voyage
de Lascaris. On est en 1792 à Nice, et puis il va s'embarquer d'abord. En passant par Vintimille, qui est la ville voisine sur la côte ligure, ensuite pour Malte, et puis ensuite il va être embarqué dans la campagne d'Égypte de Bonaparte. Tout ça se passe sur l'eau, hein. On est dans cette Méditerranée de toute façon. Malte, moi j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est un caillou vraiment au milieu de la Méditerranée, donc l'accès évidemment se fait par bateau. Et cette expédition de Bonaparte, elle regroupe 300 navires à l'époque qui partent de Toulon, pour aller, d'ailleurs une destination secrète à l'époque, mais enfin avec cette armée d'Orient, on se doutait un petit peu de quelle pourrait être la destination. Mais forcément, là, on est. Ce que je disais, l'avantage par rapport à un cinéaste, c'est qu'on peut s'emparer des lieux, des décors en les restituant à leur époque, mais du coup, on est obligé de savoir traiter l'architecture navale, le paysage, les costumes, les tenues, les costumes militaires. Un libraire, une fois, m'a dit, quand il savait que j'allais travailler sur le sujet, là, sur cette période de Bonaparte, puis Napoléon, m'a dit attention, parce que c'est les lecteurs les plus pointilleux.
Sur la véracité voilà, historique.
C'est ça, c'est-à-dire on va avoir là tous ceux qui vont...
il manque un mât.
Oui, un mât où il manque un bouton de guêtre, où cet uniforme n'était pas encore en service à ce moment-là. Vous voyez, donc, quand on travaille sur une documentation, il faut essayer d'être au maximum proche de l'époque, pas faire d'anachronisme, en tout cas pas d'anachronisme criant. Et puis voilà, puis on essaye de tout maîtriser soi-même. Mais c'est aussi formidable en tant que dessinateur d'être amené à dessiner toutes ces choses très très variées.
Et variées. Alors justement, tu me fais un pont d'or de passation. On arrive à la fin de cet entretien, donc je vais proposer aux membres du public de poser des questions. Et pendant ce temps, Jacques va se lever. Et va
donc
continuer à travailler.
Donc dessiner tout en essayant de répondre aux questions.
Pendant que vous posez des questions, Jacques va dessiner sous vos yeux. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as comme envie ?
Puisque là, je suis sur l'élan de la publication de cet album Orient perdu, qui est sorti maintenant il y a une quinzaine de jours, je vais vous dessiner mon personnage. D'ailleurs, je vais faire deux fois le même personnage. Dans la tenue qu'il a quand il est au départ de l'aventure en 1792 à Nice, où c'est un aristocrate, il est chevalier de l'ordre de Malte, il est architecte de formation, c'est-à-dire il a suivi des études à la fois artistiques et musicales, il est aussi violoniste. En fait, c'est une biographie historique, hein, ce personnage a existé, et puis il va être amené, à la suite de tout un tas de péripéties, à suivre cette campagne d'Égypte de Bonaparte. Donc on va le voir au début. On le voit dans les premiers dessins, il est sur les hauteurs de Nice, il a son carton à dessin et puis il fait des paysages en fait, c'est quelqu'un qui a une fibre artistique.
Il aime les paysages et les jolies femmes.
Ah, il y a ça, alors là je m'en tiendrai juste au personnage. Non, parce qu'en fait, c'est un personnage bon, qui a existé, mais sur lequel on ne sait pas grand-chose, notamment dans toute la première partie de sa vie, la partie niçoise, D'ailleurs, il aurait été tout à fait obscur et inconnu s'il s'en était tenu là. L'histoire le rattrape à ce moment-là avec la Révolution française, puisque Nice, à l'époque, c'est le Piémont-Sardaigne, ça appartient au duché de Savoie. Enfin, tout ça est une entité qui n'est pas française à cette époque-là. Et les soldats de la République, les soldats révolutionnaires, sont stationnés non loin de Nice, à Antibes, donc côté Provence. Et puis, la France est en guerre à ce moment-là avec tout le monde. Les monarchies autour, évidemment, voient le danger que représente cette Révolution française. Donc la France est en guerre avec tout le monde, et notamment avec l'Autriche. Et comme il y a un système d'alliance, Piémont-Sardaigne est de ce côté-là, ce qui fait que des soldats, 15 000 hommes quand même, traversent le Var, qui est ce petit fleuve côtier qui sépare la Provence du comté de Nice, et viennent envahir Nice. Et donc, mon personnage va être à ce moment-là obligé de quitter Nice. Donc il est chevalier de l'ordre de Malte, donc il file à Malte, et où il va passer quelques années. Et là, un peu par les retournements de l'histoire, cette île de Malte va être investi par Bonaparte, justement, qui est en route pour l'Égypte. Et mon brave Lascaris, du coup, il va s'engager du côté de Bonaparte pour tenter l'aventure, étant bien conscient qu'à Malte, il n'y a plus grand-chose à faire. L'ordre de Malte a été dissous. Malte, c'est tout petit. Et il se voit pas passer sa vie sur ce caillou. Donc, il tente l'aventure. Et on va donc le voir. Alors là, je l'ai représenté tel qu'il est au début, c'est-à-dire il a un grand chapeau de paille parce que cette lumière méditerranéenne, c'est aussi du grand soleil.
Ça rend fou,
le peut-être vent. Pas fou.
Le Mistral, normalement, qui rend fou.
C'est le Mistral qui rend fou. Moi, j'habite dans cette région, je ne suis pas encore tout à fait fou, vous voyez.
Alors, je précise, puisqu'il y a des auditeurs, que le public est stupéfait. Puisque dans le blanc de la feuille vient de surgir Lascaris. Lascaris avant son voyage. Pendant que tu parles, un homme sort du vide et du néant. C'est impressionnant. Est-ce que vous avez des questions ?
Mais alors, en fait,
est-ce que vous retrouvez le souffle pour poser quelques questions dans le public ? Sinon, Jacques, vous avez compris, peut tout à fait parler.
Je peux continuer, ouais, si...
Entre la France et la France, déjà, c'est extrêmement compliqué. Donc, entre la France et l'Algérie, je ne sais pas voilà ce que vous pouvez me dire par rapport à ça.
Je ne vous dirais pas que ça dépasse mes compétences, parce que quand même, je suis investi, comme beaucoup, les relations entre les deux pays. Hein. Moi-même, on l'a dit, je suis né à Alger. J'ai eu l'occasion de retourner en Algérie de très, très nombreuses fois. Je ne sais pas, une vingtaine de fois depuis une bonne vingtaine d'années. Donc c'est un pays où je connais beaucoup de gens aussi, des gens qui sont alors plutôt effectivement des journalistes, des artistes, des écrivains. Et moi, je connais Boualem Sansal depuis presque 25 ans. Parmi mes carnets de voyage, il y en a un sur Sarajevo. Et il se trouve que c'est là que j'ai rencontré Boualem il y a à peu près 25 ans. C'était des rencontres du livre là-bas. Et comme, évidemment, on avait l'Algérie en commun, on s'est tout de suite entendu. Et donc, dans un des albums qui est présent ici, L'Hôte, là, qui est cette adaptation de l'œuvre d'Albert Camus, j'avais demandé à l'époque, l'album est sorti en 2009, à Boualem, une préface. Je sais qu'il est très, très camusien, au sens, vous voyez, où il connaît bien l'œuvre d'Albert Camus. Et il considère, d'ailleurs, comme pas mal d'Algériens, même si c'est controversé, que Camus est un grand auteur algérien. Vous voyez, il ne le renvoie pas juste à sa langue ou à sa nationalité française. Pour lui, c'est Camus qui a le mieux chanté l'Algérie, vous voyez, avec Nos Atipaza, des choses comme ça. Donc Boualem, je le connais depuis longtemps. Il a toujours eu une libre parole par rapport à ce qui se passe dans son pays. Il habitait jusqu'à son arrestation toujours dans les environs d'Alger. Il faisait des allers-retours incessants entre la France et l'Algérie, mais toujours en étant domicilié là-bas. Et tout le monde lui disait, mais t'es fou de retourner en Algérie, est-ce que tu dis sur le régime, un jour ils te laisseront pas repartir. Et puis moi j'avais vu un mois avant son arrestation, là, il y a exactement un an, en octobre 2024, on a passé 3 jours ensemble dans un festival du livre du côté de Montpellier. Et Il rentrait le lendemain en Algérie. Je dis, mais t'as pas peur de retourner là-bas? Oh, tu sais, maintenant, en Algérie, on me considère comme un vieux fou. Donc, on me fiche la paix. Et puis, c'est une caution pour le régime de dire, ben, regardez, on laisse les écrivains qui ne nous aiment pas, qui disent du mal du régime. Et c'est une manière de dire, regardez, comme on est tolérant, comme on est sympa. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une conjonction de différents événements qui ont fait que brusquement, à travers des enjeux qui dépassent largement la personne de Boualem, des enjeux politiques, notamment sur la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ce qui a été une espèce d'argument pour les Algériens, enfin pour le gouvernement algérien, de dire la France n'est pas notre ami. Et donc, comme Boualem venait d'obtenir la nationalité française, et qu'il venait de... Donc après qu'on se soit vu, il est parti en Algérie, il est revenu, et c'est le voyage suivant où là, ils l'ont pas laissé... Enfin, dès qu'il est arrivé, il était arrêté. Et il est toujours en prison. Donc nous, on essaye. Moi, je fais partie du comité de soutien. On a essayé par tous les moyens de le faire sortir. On a espéré qu'il puisse avoir des... Comment dire, des tractations diplomatiques, etc. Mais rien n'y a fait. Et donc là, il en a pris pour 5 ans de prison. Simplement, rendez compte, simplement pour avoir critiqué le régime, quoi. Il a fait des livres. Il n'a pas fait autre chose que des livres. Il n'a pas de sang sur les mains. Il n'a pas incité les gens à se soulever contre le pouvoir, à manifester. Il a juste fait des livres. Et ça, c'est une raison suffisante pour le pouvoir, pour le mettre... pour le mettre en prison, vous voyez. Donc, et je trouve qu'il a eu assez peu de soutien, finalement. J'aurais aimé qu'il en ait plus, davantage, et de toute la, on veut dire, de tout le spectre politique en France. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, là, si vous voulez, dans ce renoncement à défendre quelqu'un qui se bat simplement pour la liberté d'expression.
Alors, pendant que Jacques parle... Un deuxième lascaris est sorti sur une feuille blanche. Le lascaris
égyptien.
Parce que quand lascaris va arriver...
C'est un extraterrestre. En même temps...
Il ne sera plus jamais dit qu'il n'y a que, qu'il n'y a que les femmes qui peuvent se servir de leur deux lobes de cerveau.
Vous me scotchez, là.
Alors, peut-être qu'on peut faire une dédicace de ce magnifique
dessin
à la médiathèque Maurice Genevoix, qui va
avec grand plaisir
le mettre sur ses murs. On vous remercie, tous les membres de l'équipe et le public de la médiathèque de Maurice Genevoix. De Blois, de nous avoir accueillis. Merci beaucoup aussi à Studio Zef de nous avoir donné la possibilité d'enregistrer en direct cet échange. Merci Jacques. Bonne continuation à tous et à toutes.
Merci. Merci.